Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ennemi du peuple, c'est ainsi que Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, appelle les opposants à la loi sur la sécurité que veut imposer la Chine à l'ancienne colonie britannique. Les différents anniversaires symboliques qui ont jalonné les dernières semaines, répression de Tiananmen, un an du début du mouvement pro-démocratie ou encore les procès de militants pro-démocratie n'ont pas provoqué de manifestations géantes comme celle d'il y a un an. Parmi les explications, il y a bien sûr les conditions sanitaires avec la pandémie de Covid-19, mais aussi peut-être une certaine usure face à la détermination apparente de Pékin à imposer sa loi et son ordre. Le mouvement pro-démocratie hongkongais est-il vaincu? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone. Michel Bonin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, sinologue et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Sébastien Weck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également historien, également sinologue et également directeur d'études à l'EHESS. Et Sébastien Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'INALCO et chercheur à l'IFRAE, c'est l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, et vous êtes l'auteur de « La Chine et ses frontières » chez Armand Collin et « La Chine, puissance mondiale » à la documentation française. Sébastien Collin, avez-vous le sentiment que le mouvement pro-démocratie de Hong Kong est en train de s'essouffler?
Alors, c'est effectivement ce qu'on pourrait penser à première vue, dans la mesure où il n'y a pas, comme vous l'aviez dit en introduction de l'émission, de grandes manifestations comme on a pu l'observer il y a un an lors de l'opposition d'une partie de la population hongkongaise contre la loi devant faciliter les extraditions. Dans un contexte effectivement qui est celui aujourd'hui de la lutte contre l'épidémie. Maintenant, bien évidemment, sur le plan idéologique, sur le plan politique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation de grande ampleur que l'opposition a complètement disparu. On peut penser aussi que des modalités d'expression ou les modes d'expression peuvent changer, même si effectivement on a cette impression peut-être qu'on est là en présence d'un tournant.
Michel Bonin, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe ces dernières semaines? C'est pas qu'il n'y a pas de manifestation, hein, mais il y a des rassemblements peut-être plus dispersés dans la ville de Hong Kong.
Bah, déjà, il y a une situation sanitaire et des règlements et des lois qui interdisent les rassemblements. Donc, il est évident que c'est beaucoup plus difficile de se réunir. Il y a eu plusieurs manifestations et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des petites manifestations en souvenir de la grande manifestation d'il y a un an de 2 millions de personnes, donc qui était la plus grande manifestation de toute l'histoire de Hong Kong. Évidemment, c'était difficile de faire une manifestation de avec tant de personnes aujourd'hui, et de toute façon c'était devenu rare d'avoir de grandes manifestations même avant l'arrivée du virus parce qu'elles étaient interdites, et donc à partir du moment où elles sont interdites par le gouvernement, la police qui a été renforcée et qui est d'une violence que moi qui connais Hong Kong depuis 40 ans, j'avais jamais vu, la police peut évidemment empêcher qu'il y ait des grandes manifestations, puisqu'ils lancent des grenades lacrymogènes, ils avancent avec armée, enfin de bâtons et de lanceurs de poivre. Et donc voilà, c'est beaucoup plus difficile. On est rentré dans une autre période, mais ça n'empêche pas, par exemple, qu'hier et pour l'anniversaire de la mort d'un manifestant qui était monté sur un immeuble pour déployer une banderole et qui était ensuite tombé par terre, et donc qui était un mort de du mouvement, il y a eu quand même une cérémonie, une cérémonie de commémoration qui a été relativement importante.
Sébastien.
Donc je pense pas qu'on puisse dire que le mouvement est mort, pas du tout. Je pense qu'il va prendre de nouvelles formes parce que c'est peut pas faire autrement. Et là, aujourd'hui, il y a eu la décision d'autoriser maintenant des rassemblements de 50 personnes. Mais 50 personnes, c'est suffisant pour faire un mariage, mais c'est pas suffisant pour faire une grande manif. Donc voilà, tout ça est bien calculé. Et c'est calculé d'ailleurs pour que ça dépasse le 1er juillet. Et le 1er juillet, généralement, il y a de grandes manifestations puisque c'est le souvenir de. Enfin, c'est la commémoration de la rétrocession et c'est un jour où l'opposition manifeste massivement.
Sébastien Weg, est-ce que les gens ont tout simplement peur ?
Comme l'a dit Michel Bonin, il y a des violences policières extrêmement importantes. Mais je pense qu'il faut peut-être recadrer un petit peu sur le temps. Donc il y a eu le mouvement contre la loi d'extradition. La loi d'extradition a quand même été retirée. Donc ce mouvement-là, alors il a continué effectivement à cause de ces terribles violences policières et donc la demande au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Néanmoins, la revendication principale de ce mouvement-là a été satisfaite. Donc le mouvement a continué, mais il s'est quand même un petit peu arrêté en janvier. Il a commencé à prendre de nouvelles formes et à se diriger vers plutôt le monde économique, donc pour essayer d'organiser une sorte d'économie qui s'appelle le cercle économique jaune, donc de la couleur des manifestants pro-démocratie, donc pour essayer d'avancer un peu dans le mouvement. Donc la commission d'enquête, en réalité, la meilleure possibilité pour l'établir, c'est que les démocrates gagnent les élections législatives de septembre, puisque avec une majorité au LegCo, alors c'est pas complètement mécanique, mais il devient possible d'établir une commission d'enquête. Donc voilà, alors s'ajoute par-dessus ça, donc de façon totalement surprenante, prévue par personne, tout d'un coup, le 22 mai, donc on a cette décision à Pékin d'imposer une loi sur la sécurité nationale. Donc ça, je dirais, c'est encore très très récent et effectivement, le mouvement n'a pas encore vraiment trouvé. Bon, d'une part, on ne connaît pas encore la loi, donc la loi elle-même est encore en train d'être rédigée. Et évidemment, les manifestants, mais certainement, il y aura des réactions tout à fait significatives.
Sébastien Collin, les militants et manifestants pro-démocratie, ils accusent le coup de cette nouvelle loi lancée par Pékin ou est-ce que ça peut relancer le mouvement ?
Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. D'un côté, effectivement, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle arme législative que Pékin tente donc d'appliquer à la volonté d'appliquer à la région d'administration spéciale. Et dans le même temps, et qui vient effectivement après cette victoire. Contre donc la loi qui visait à faciliter les extraditions et qui a donc été retirée et donc à la suite de cette victoire du camp pro-démocratie qui a ensuite gagné au moment des élections locales en novembre dernier, donc il y avait eu une sorte de suivi politique de ce retrait de la loi. Et donc, on a là effectivement les autorités à Pékin qui, face à ces échecs, à cet échec, viennent à nouveau, essayer de reprendre la main sur les territoires. Et donc, on peut penser qu'au sein du camp pro-démocratie, il y a effectivement, on accuse un peu le coup et on sent bien effectivement que Pékin est véritablement décidé et continuera dans cette voie. Et dans le même temps, il y a aussi une volonté de continuer à se battre au au sein d'une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse. Donc je pense qu'on trouve là effectivement des sentiments un peu ambivalents en fonction des acteurs et du profil de la population.
Michel Bonin, cette nouvelle loi, elle vient un an après celle sur les extraditions qui a donc été retirée. Est-ce que ça pourrait arriver que des manifestations, si elles sont à nouveau autorisées, aboutissent au même résultat ?
Là, je pense que ça va être relativement différent, puisqu'il semble que Pékin est absolument décidé d'imposer cette loi sur la sécurité nationale. Et donc, on est dans une situation nouvelle, puisque l'interlocuteur maintenant, ce n'est plus du tout le gouvernement de Hong Kong, qui n'existe plus. Le gouvernement de Hong Kong est devenu simplement un agent du gouvernement de Pékin. Et l'interlocuteur, c'est Pékin. C'est Pékin qui va décider tout. Et on ne sait pas encore le détail de cette loi, mais il y a déjà eu des prises de parole officielles chinoises disant que dans certains cas, les jugements seront faits selon la loi chinoise. Donc c'est carrément une remise en cause totale de la promesse d'un pays deux systèmes. Donc on entre dans une période tout à fait nouvelle où finalement le Pékin ne prend plus les moindres gants du point de vue international et comme du point de vue de la population de Hong Kong. Et donc je pense qu'effectivement ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens commencent à réfléchir. Tant qu'on n'a pas la loi, ils se demandent comment agir, comment réagir à cette future loi qui est évidemment un pas en avant relativement grave, même du point de vue international. C'est quelque chose qui est une rupture du contrat international qui avait été passé en 1984 par dans la déclaration conjointe sino-britannique et qui est déposée à l'ONU. On est maintenant dans une situation qui non seulement remet en cause le rapport de la population de Hong Kong avec son gouvernement, mais aussi avec le gouvernement de Pékin, mais aussi finalement on est dans une nouvelle situation internationale, je dirais. Donc on voit que le gouvernement chinois apparemment, c'est depuis quelque temps, profite de la situation du international avec le virus pour avancer un certain nombre de pions et Hong Kong, évidemment, est un de ses pions principaux.
Sébastien Weg, d'autres pays, et les États-Unis notamment, disent que cette loi signe la fin du statut spécial de Hong Kong. C'est le cas, selon vous ? C'est un coup de force juridique ?
Alors, on ne connaît pas encore le contenu de la loi.
Oui, on ne connaît pas vraiment précisément, oui.
Voilà, donc il y a une décision de l'Assemblée nationale populaire, donc, qui donnait l'instruction à son comité permanent de rédiger cette loi. Donc on ne sait toujours pas très bien exactement à quel moment elle va être présentée, mais elle est de toute manière en cours de préparation. On a déjà quand même à peu près le domaine auquel et comme le disait Michel Bonin, c'est effectivement une rupture sur plusieurs plans. Donc d'une part, le processus par lequel cette loi est imposée à Hong Kong est quand même anticonstitutionnel, c'est-à-dire que le mécanisme d'inscrire des lois directement en droit hongkongais, je passe sur le mécanisme exact, mais ce mécanisme n'est pas prévu pour des lois de ce type. Il est prévu justement pour des lois qui ne nécessitent pas d'application locale, c'est-à-dire soit des lois qui concernent les relations externes de la Chine et donc de Hong Kong aussi. Donc par exemple, il y a une loi sur le domaine maritime qui a été inscrite à l'annexe 3, soit des lois qui n'ont pas de conséquences pénales, donc des lois du type qui prescrivent le drapeau, la capitale, etc. Donc le processus est vicié Et le contenu a quand même de grandes chances, étant donné ce qu'il y a, le cadre qui a été fixé par l'ANP, le contenu a de grandes chances d'entrer en contradiction avec un certain nombre de garanties constitutionnelles, donc notamment celles qui concernent les pactes de l'ONU sur les droits civils et politiques qui ont été inscrits dans la loi fondamentale de Hong Kong. Et effectivement, si cette loi adopte une définition de crime comme la sédition ou le séparatisme qui englobe les délits d'expression, elle sera directement en contradiction avec d'autres lois hongkongaises. Et donc, bon, on renverra aux tribunaux hongkongais ou alors à d'autres tribunaux ad hoc le soin de trancher ces problèmes, mais évidemment, tout ça, c'est pas ce qui était inscrit dans la déclaration conjointe sino-britannique.
Oui, Sébastien Collin, est-ce qu'il y a des moyens juridiques, politiques, ça a été évoqué, ou judiciaires, d'éviter ou de retarder cette échéance ?
Alors là, sur les questions juridiques, au niveau local, bon, Sébastien Vieg vient de le rappeler, c'est-à-dire que d'une part, on n'a pas le contenu exact de la loi. Il est probable que les autorités à Pékin tentent de faire valoir l'annexe 3 qui concerne effectivement les questions diplomatiques et de défense. D'ailleurs, ils insistent beaucoup pour justifier la loi, cette loi sur la sécurité nationale, sur la question de l'interférence des forces étrangères à Hong Kong.
Oui, quand on parle de sécurité nationale, on va le préciser, c'est la sécurité nationale de la Chine, hein, pas de Hong Kong.
Oui, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Enfin, c'est les deux. Hein.
Oui.
C'est
il y a les deux.
Hong Kong fait partie de la Chine.
Oui. Voilà, c'est le statut spécifique de Hong Kong, mais il y a quand même effectivement eu une rétrocession en 1997, même si c'est sous un statut particulier. Et donc, cette loi de sécurité nationale, elle est justifiée aussi. Je pense qu'il faut remettre cette question-là, si vous voulez, à trois échelles. Géographique à mon sens. Le premier, il y a effectivement à l'échelle du territoire hongkongais où il y a ces mouvements d'opposition à cette mainmise de Pékin qui se sont manifestés à plusieurs reprises. Le mouvement des parapluies et puis ensuite les grandes manifestations de l'année dernière et une volonté de la part de Pékin bien évidemment de contrer ces mouvements. Il y a l'échelle nationale où on a effectivement un pays qui est en proie à un ralentissement économique depuis maintenant plusieurs années, qui là est en train de subir les contre-coups de la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Le premier trimestre, les résultats économiques du premier trimestre pour la Chine sont assez effectivement inquiétants de ce point de vue, donc il va y avoir des conséquences économiques fortes. Et puis à l'échelle internationale, vous avez cette rivalité idéologique de plus en plus forte avec le monde occidental et les valeurs occidentales. Et donc il y a ici trois niveaux, si vous voulez, trois échelles géographiques qui expliquent aussi cette volonté de la part de Pékin de mettre en place cette loi sur la sécurité nationale et donc une fermeté de plus en plus visible et de plus en plus assumée sur les questions de souveraineté territoriale. Et on le voit depuis plusieurs années maintenant, que ce soit dans les mers de Chine, que ce soit au Xinjiang, ou encore le long de la frontière sino-indienne en ce moment, que sur ces questions de souveraineté, la Chine joue la carte de la fermeté.
Michel Bonin, pour en revenir au mouvement pro-démocratie, l'absence de manifestations massives pour favoriser des actions peut-être plus symboliques ou plus dispersées, c'est un recul ou c'est une réorientation de la stratégie ? Est-ce que finalement les militants pro-démocratie attendent une occasion ?
Évidemment, personne ne peut prévoir l'avenir, mais je pense que le mouvement n'est pas du tout en perte de vitesse, en tout cas dans la jeunesse de Hong Kong. Ce qui est à prévoir et peut-être à craindre, c'est une radicalisation de plus en plus grande face à cette volonté de Pékin de prendre de plus en plus le contrôle direct de Hong Kong. La résistance, maintenant, c'est de dire l'indépendance est la seule solution. C'est un slogan qu'on entend de plus en plus dans les manifestations récentes. Évidemment, c'est évidemment pas une solution réelle, puisque l'indépendance n'est pas possible du point de vue militaire, je dirais. Mais en même temps, c'est le résultat de cette intransigeance de Pékin qui dure en fait depuis un certain temps, et notamment depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, et le fait que la promesse d'élection générale n'a pas été tenue. C'était la cause du premier mouvement des parapluies, et le problème n'est pas résolu. Et finalement, on se trouve dans une situation aujourd'hui à Pékin, à Hong Kong, où il y a une minorité de gens qui collaborent avec le régime central, qui contrôlent tout Hong Kong et qui contrôlent toutes les décisions, alors qu'ils sont minoritaires. Et que il n'y a donc pas de démocratie, même pas un semblant de démocratie maintenant à Hong Kong. Et le problème est que avec cette nouvelle loi, il y aura des opportunités de plus en plus grandes pour faire taire les opposants, et on peut évidemment penser que un des objectifs, c'est d'empêcher un raz-de-marée pro-démocratique aux prochaines élections de septembre. Mmh. Alors évidemment, un raz-de-marée démocratique, ça ne veut pas dire que les démocrates auront la majorité, puisque le système est fait de telle façon qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Mais ils auraient quand même si l'immense majorité de la population vote pour eux, ils peuvent avoir un poids. Et ça, c'est ce que Pékin veut éviter absolument.
Mmh. Sébastien Weg, il y a eu environ 9000 arrestations depuis le début du mouvement. Il y a un an, 500 personnes doivent être jugées comme émeutiers, qui est un crime passible de 10 ans de prison à Hong Kong. Est-ce que cela décapite le mouvement? Est-ce que ça lui prend ses leaders?
Alors c'était un mouvement dont la conception même était d'être
était sans leader, oui, absolument.
Effectivement, il n'y a pas de personnalité emblématique. Néanmoins, effectivement, alors d'une part, c'est le point de vue avancé par le gouvernement que les violences étaient le fait d'un nombre, alors peut-être pas petit dans l'absolu, mais en tout cas un nombre circonscrit de personnes, peut-être quelques milliers, et que une fois ces personnes-là arrêtées, les violences s'arrêteraient. On n'a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui pour apprécier ce jugement, mais disons que d'autres situations comparables, si on pense à l'Irlande du Nord ou d'autres, suggèrent plutôt que la violence suscite la violence. Enfin, la répression suscite de nouvelles vocations. On peut se demander si cette tactique du gouvernement hongkongais était bien judicieuse. Néanmoins, il est certain que les peines de prison extrêmement lourdes, et on peut parler quand même de politisation du parquet, enfin l'attitude du parquet, donc qui prend directement des instructions du ministère de la Justice pour des cas individuels, l'attitude du parquet n'est plus du tout celle d'un parquet qui ne prend pas en compte les considérations politiques. Donc il y a les appels systématiques de toutes les peines non carcérales, etc. Donc il reste les juges, mais les juges aussi sont sous une pression très très importante. En sachant que Hong Kong a le haut degré d'autonomie de Hong Kong implique dans presque la totalité des affaires judiciaires les cours les tribunaux hongkongais ont le dernier mot, mais on n'est jamais à l'abri d'une réinterprétation de la loi fondamentale par l'Assemblée nationale populaire, comme ça a été le cas dans l'affaire des prestations de serment des élus au Conseil législatif. Les juges sont extrêmement prudents parce qu'ils ont peur, en rendant des jugements perçus comme trop laxistes à Pékin, et ils craignent de donner l'opportunité à Pékin d'intervenir encore davantage. Donc effectivement, tout ça a tout de même un effet extrêmement dissuasif. On le voit d'ailleurs aussi avec les vagues de manifestants ou de même d'étudiants, de jeunes hongkongais qui ont quitté le territoire.
Oui, justement, vivre aujourd'hui à Hong Kong, et notamment quand on est jeune, c'est savoir qu'au mieux dans 27 ans, on vivra sous le régime du Parti communiste chinois. Ça peut entraîner quel type de réflexion ? Est-ce que les militants pro-démocratie, Sébastien Collin, ont l'intention de rester, de se battre jusqu'au bout, ou de partir, d'émigrer, comme ceux qui ont pu le faire après Tiananmen, notamment ?
Là, c'est un peu difficile de répondre à leur place quand on n'est pas dans la situation dans laquelle ils sont. Mais bien évidemment, on peut penser que ces sentiments-là seront présents. Je pense qu'une partie du mouvement, et notamment de la jeunesse, continuera à se battre et semble déterminé à le faire d'après un certain nombre de déclarations, peut-être avec des modalités effectivement qui vont devoir changer, comme on l'a dit, dans la mesure où le contexte lui aussi est en train de changer, que ce soit sur le plan juridique ou que ce soit effectivement avec cette évolution de la police hongkongaise en matière d'action. Et puis après, quant à la possibilité, ou en tout cas d'émigrer, tout dépendra aussi de la situation de l'ensemble de ces jeunes ou de ces opposants, puisque bon, l'émigration peut se faire bien évidemment, mais elle nécessite quand même d'avoir des moyens de le faire. Donc là, c'est difficile effectivement de répondre à cette question de manière tranchée. Mais je pense qu'il y aura la continuité d'action, qu'on est dans une phase de polarisation de plus en plus forte, de plus en plus profonde, entre une jeunesse déterminée et des autorités à Pékin également fermement décidé à mater, si je puis dire, cette opposition.
Michel Bonin, polarisation, radicalisation, oui, c'est ce que vous pensez aussi ?
Je pense que c'est évidemment le résultat inéluctable de cette volonté d'emprise du pouvoir de Pékin, et donc une radicalisation. Et donc quand la loi va être passée, donc apparemment, comme je l'ai dit hier, il y a eu une prise de parole d'un responsable des affaires étrangères disant qu'il était possible que des cas soient jugés en Chine même. Alors imaginez qu'un des principaux opposants gouvernement de Hong Kong soit embarqué en Chine et condamné lourdement et enfermé dans une prison chinoise, le résultat, ça va être bon, une radicalisation, mais ça va être aussi des départs très nombreux. Effectivement s'attendre à, si Pékin ne bouge pas dans cette orientation, il faut s'attendre à une forte migration en dehors de Hong Kong. À quel terme, je ne sais pas, mais c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ça a été déjà plus ou moins prévu par le gouvernement britannique, puisqu'ils ont dit qu'ils donneraient des passeports, au moins en attendant des passeports, des visas de longue durée aux gens de Hong Kong qui avaient autrefois la nationalité britannique. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été discuté avant 1997, avant la rétrocession. Et maintenant, dans la mesure où finalement les cartes sont rebattues par Pékin, on se retrouve un peu dans la situation d'avant 1997.
Merci Michel Bonin, merci Sébastien Weg et merci Sébastien Collin d'avoir participé à cette émission qui s'achève déjà. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Javier González-Gavilán. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.